Merci Mathieu Laurent et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le secret des sources, notre plongée hebdomadaire dans les coulisses de l'information.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Benoît Bouscarel.
C'est dans les situations de crise, certainement, que se révèlent les personnalités, que se découvrent les solidités, les arcs de résistance ou les points de faiblesse. C'est dans la tempête que s'éprouvent les remparts. De même, c'est sous l'état d'urgence, peut-être, que la presse française va se révéler et, pourquoi pas, dans certains cas, évoluer. Alors que notre pays s'installe pour quelques mois, au moins, dans un régime dérogatoire aux libertés publiques, la presse va devoir continuer à jouer coûte que coûte un rôle de gardienne de ses libertés dans une situation délicate, puisque elle est finalement elle aussi menacée dans ce contexte. Nous interrogerons ce paradoxe ce matin dans le secret des sources. Alors certes, le contrôle de la presse n'a pas été rétabli dans la loi prolongeant l'état d'urgence après les attentats de Paris et de Saint-Denis, mais la tentation du politique a bel et bien été là. Et puis, les dangers viennent peut-être aussi d'ailleurs dans les appels a priori innocents à la responsabilité des journalistes, dans les appels plus ou moins maladroits à ne pas gêner le travail des policiers, des enquêteurs, dans un contexte, vous comprendrez, mesdames et messieurs les directeurs de rédaction, qui est si particulier. Comment informer avec discernement sous l'état d'urgence sans prendre le risque de tomber dans une forme d'autocensure vis-à-vis du pouvoir politique et des autorités en général. État d'urgence pour l'information, c'est le sujet du secret des sources. Nos invités ce matin, Laurent Boredon, journaliste au Monde et responsable d'un observatoire de l'état d'urgence créé il y a tout juste quelques jours. Mathieu Magnodex, journaliste politique à Mediapart. Didier Siamour, journaliste indépendant, notamment à Radio France, spécialisé dans les médias. Également avec nous en qualité d'invité de cette émission cette semaine, Fabrice Lorvaux, avocat spécialiste du droit des médias. Nous aurons le regard de notre chroniqueur Jean-Marie Charon, sociologue des médias, et le clin d'œil bien sûr de Yacine Bouzard. Et puis, nous irons en Tunisie dans cette émission. La Tunisie qui vit une situation similaire à celle de la France depuis quelques jours, un nouvel attentat sanglant, suivi par l'instauration de l'état d'urgence. Rachid Chérif, journaliste au Courrier de l'Atlas, sera avec nous au téléphone depuis Tunis.
Mesdames et messieurs les députés, parce que la menace terroriste est là, parce que nos concitoyens nous demandent de tout mettre en œuvre pour les protéger, l'état d'urgence doit être prolongé sur tout le territoire. La durée soumise à votre décision est de 3 mois. Cette durée permettra d'accélérer la mise hors d'état de nuire des réseaux terroristes dans le respect de l'action juridictionnelle qui reste la seule réponse à moyen et long terme pour neutraliser les réseaux.
Voilà, c'était le jeudi 19 novembre à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Manuel Valls lançait les débats sur le texte du projet de loi prolongeant l'état d'urgence. Bonjour Laurent Boredon.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde et très vite après la prolongation effective de l'état d'urgence, ça n'a pas traîné, hein, c'était une procédure accélérée au Parlement, vous avez tenu à mettre en place un blog sur le site du Monde, un blog intitulé « Vue de l'intérieur » qui est en fait un observatoire de l'état d'urgence. Est-ce que cette initiative relève du réflexe ?
Oui, je pense qu'elle relève du réflexe. Ce qui s'est passé finalement est très simple. Hein. Les premières assignations à résidence et perquisitions administratives ont eu lieu très vite après les attentats.
En nombre ?
En nombre, oui, tout à fait, en nombre. Nous, on a eu envie d'aller voir qui était d'abord derrière les assignés à résidence. On va dire que c'était pas le plus facile, mais enfin c'était le plus évident. Il suffisait d'en trouver et d'aller les voir. Donc j'y suis allé moi dès le mercredi qui a suivi les attentats. Et puis on a fait un article. Et puis une fois qu'on fait un article et qu'on se rend compte que l'état d'urgence va être prolongé pendant 3 mois.
3 mois au moins, puisque au moins, il n'est voilà. Pas exclu qu'il soit encore prolongé.
Puisque donc on l'a su très vite. On se dit bon bah ok, on va faire quoi ? On va refaire un papier assigné à résidence dans le journal dans 3 jours, dans 2 jours, dans 5 jours, dans 10 jours. On voyait bien que le format finalement du quotidien papier ne suffisait pas, que par ailleurs continuer à faire des articles comme ça sur le web, mais noyé dans la masse d'informations. Alors, d'autant plus dans une période post-attentat où on est en phase de production vraiment exponentielle d'informations en permanence. C'était pas non plus la bonne solution. Donc, moi, j'ai un blog de rubricard sécurité au journal. Et j'ai dit, prenons mon blog, renommons-le. C'est le plus simple. Au moins, il est là, il existe. Et puis, transformons-le en observatoire de l'état d'urgence. Donc, c'est effectivement une forme de réflexe de dire, l'état d'urgence est là, c'est une procédure dérogatoire. On peut en débattre a priori de sa légitimité, de ses risques démocratiques, mais nous, ce qu'on va faire en tant que journaliste, c'est aussi de l'examiner au jour le jour, voir les conséquences au jour le jour.
L'enjeu, c'est de comprendre, de savoir si les perquisitions, les assignations à résidence sont fondées, tout simplement, aussi.
Si elles sont fondées et si elles sont efficaces également. Hein, parce qu'on voit bien que le débat s'embourbe dans une sorte de débat éternel entre sécurité et liberté, l'équilibre entre sécurité et liberté. Dans ce cadre-là, à mon sens, c'est un débat qui n'a pas de sens. La question, c'est l'efficacité, ouais, après tout.
Alors, on lisait, par exemple, hier sur votre blog, que les assignations à résidence concernent aussi les militants écologistes ces jours-ci. Là, c'est la COP21 qui débute. Demain, ça révèle quand même d'un effet d'aubaine pour les policiers. C'est ça aussi qu'il faut montrer et qu'il est urgent de montrer.
Alors, il était effectivement assez urgent de montrer ce que nous disaient les policiers eux-mêmes, parfois de manière un peu presque naïve, enfin, c'est-à-dire qu'ils le reconnaissent, il n'y a pas de... c'est que c'est un effet d'aubaine. Ça a d'abord été un effet d'aubaine pour, on va dire, aller ennuyer les petits délinquants qui voient traîner toute la journée et qui ne peuvent pas ennuyer avec le régime judiciaire classique.
Et puis on peut finir les procédures, quoi. On peut aller plus vite, c'est ce qu'ils vous disent.
Oui, alors finir les procédures, enfin, en tout cas, on peut harceler un peu le petit délinquant parce qu'on sait que, grosso modo, si on va chez lui, on trouvera toujours une barrette de shit ou une arme. Alors, faut voir ce qui cache derrière le mot arme souvent quand même dans les perquisitions. Et ensuite, effectivement, on voit qu'après il y a une opportunité qui est là et politique, qui est l'opportunité utilisée depuis mercredi et jeudi et puis avec une accélération encore aujourd'hui, qui est de dire on est très embêté par la COP21, la mobilisation militante qui va y avoir autour, les violences. Moi, c'est quelque chose dont j'ai parlé d'ailleurs sur mon blog avant l'état d'urgence. On est très ennuyé par ça. Bon, il y a les attentats, on interdit la manifestation pour des raisons pratique, on va dire, enfin en tout cas présenté comme pratique. Et maintenant, tous ces militants, on va pouvoir, grâce à l'état d'urgence, les assigner à résidence, les perquisitionner. Et là, on est plutôt dans l'opportunité effectivement politique. D'ailleurs, c'est le ministre lui-même qui signe un certain nombre d'arrêtés concernant la COP21, ce qui n'est pas le cas pour les assignations, on va dire, traditionnelles qui sont signées par les préfets.
On va revenir vers vous, Laurent Borodon. Vous appelez d'ailleurs les lecteurs à vous informer. On en parlera tout à l'heure de cet aspect wiki. C'est un peu ce que fait aussi la Quadrature du Net, un organisme qui lutte pour préserver les libertés numériques, qui a lancé une initiative qui, elle, recense l'ensemble des articles de presse en rapport avec les conséquences de l'état d'urgence. Mathieu Magnodex, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste politique à Mediapart. Alors vous aussi, vous avez senti un danger, vous avez aussi eu un réflexe à Mediapart suite à cette instauration de l'état d'urgence.
Oui, en fait, à Mediapart, on a nous aussi installé depuis quelques jours, et ça va probablement durer un certain temps, une case sur notre site, un article en fait qu'on réactualise régulièrement, ce qui n'empêche pas par ailleurs de faire des papiers comme c'était le cas hier par exemple sur justement ce dont parlait Laurent Borodon, cette façon de cibler particulièrement les militants écologistes au sens très large, parce qu'il y a des gens là-dedans extrêmement différents, avant la COP21, et donc on a un espace comme ça qui est réactualisé avec nos propres informations, ce qu'on voit dans la presse quotidienne régionale, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont aussi dans la presse quotidienne régionale qu'on reprend, je pense, les uns comme les autres et qui, voilà, est probablement appelé à durer. En effet, Bernard Cazeneuve a dit que ça pourrait être prolongé. Et il faut bien dire que c'est pas juste une lubie, de journalistes comme on entend déjà un petit peu, d'ailleurs comme le disent parfois certains confrères. J'ai été assez atterré par certains éditos, le tuto de Franz-Olivier Gisbert qui visiblement manifestement a pété un plomb complètement cette semaine dans Le Point. Ce n'est pas juste des journalistes droits de l'hommiste, etc., comme on entend. C'est quand même la vraie question, c'est la question de dans quel état sommes-nous. Est-ce que c'est quand même important qu'après la phase de l'émotion, en fait, que tout le monde a couvert quand même et a décrit, que maintenant aussi on se pose les questions qui sont normales, de savoir un petit peu comment la police agit dans ce cadre qui est encore une fois un cadre d'exception.
Et c'est plus difficile d'avoir des informations du ministère de l'Intérieur dans dans ce cadre-là de l'état d'urgence. C'est ça aussi contre quoi il faut lutter.
Alors nous, il y a eu un cas un peu particulier. Alors c'est mes collègues enquêteurs plutôt à Mediapart qui ont été un peu soumis à certains dilemmes, on va dire, dans la relation avec le ministère de l'Intérieur. Je pense, j'imagine que c'est la même chose au Monde ou dans les autres journaux. Il y a eu notamment deux enquêtes en fait. Illico après les attentats, évidemment, les enquêteurs de Mediapart ont commencé à travailler et très vite on nous a fait comprendre que pour deux enquêtes qui en gros étaient prêtes le week-end ou le lundi, etc., le ministère de l'Intérieur nous a fait comprendre que ce serait bien de pas les publier parce que ça risquait de nuire à l'enquête. Une s'est assez vite réglée parce que finalement l'information allait sortir dans d'autres médias, etc., et donc le ministère de l'Intérieur ne pouvait plus retenir cette information. Par ailleurs, en responsabilité, nous nous étions assurés auprès de différentes sources que ça ne risquait pas manifestement de mettre en cause l'enquête. Mais le deuxième cas était plus intéressant. Je vous fais en deux mots. C'était en fait assez vite, nos journalistes Marine Turchi et Yann Philippin, qui sont enquêteurs à Mediapart, sont allés à Chartres, hein, où il y avait Ismaël Mostefaï, un des kamikazes du Bataclan, qui avait vécu là-bas. Et ils se sont aperçus que il avait évolué dans un milieu salafiste et qu'il s'était radicalisé à l'intérieur de ce milieu salafiste et que finalement, en gros, hein, très vite, ils ont compris que la DGSI était largement passée à côté et de sa radicalisation, de son retour de Syrie, etc. Et je vous le fais très court, il a fallu 5 jours pour que nous publions cet article, pour que nous nous rendions compte, en fait, finalement, que le vrai argument n'était pas tout simplement de que ça mettait en danger l'enquête. Le vrai argument était que le ministère de l'Intérieur était un peu gêné qu'on pointe ce qui était de toute évidence un raté des services de renseignement.
Une faiblesse dans le dossier, c'est aussi ça à quoi il faut être vigilant. Également avec nous ce matin dans le secret des sources, Didier Siamour, bonjour.
Bonjour.
Journaliste indépendant spécialisé dans les médias. Comment d'une manière générale vous voyez la réaction des médias depuis l'instauration de l'état d'urgence? Mathieu Magnodex nous disait à l'instant, c'est pas une lubie, c'est important peut-être d'être résistant. Les médias sont quand même résistants et il faut continuer à l'être, peut-être plus en ce moment.
Peut-être, en tout cas, vous avez posé tout à l'heure bien les termes du débat, c'est qu'on va trouver un équilibre entre liberté et sécurité. Et on voit bien aujourd'hui, depuis quelques jours, l'évolution des médias, à l'instar de ce qui s'est passé chez les politiques, mais sauf que chez les politiques, c'est beaucoup plus unanime, on va vers la sécurité. Alors que dans beaucoup de médias, certains aujourd'hui ont pris le parti de rallier ce sentiment de besoin de sécurité, et d'autres se posent des questions sur les libertés. C'est quelque chose qui a vraiment surgi. On le voit parce qu'il y a une forme d'autocensure qui s'est établie chez certains médias qui ne vont pas aller enquêter justement et qui vont aller s'abreuver, on va dire, auprès du ministère de l'Intérieur pour voir ce qu'ils ont le droit de raconter, ce qu'ils ne raconteront pas.
Avec un danger supplémentaire sous état d'urgence, évidemment.
Bien sûr, mais au nom justement des enquêtes en cours, de ce qui va pouvoir donner lieu peut-être à des arrestations ou révéler des réseaux, on ne sait pas. Et puis à côté de ça, eh bien, d'autres qui se posent quand même des questions. D'abord parce qu'ils ne sont pas favorables forcément à l'instauration de cet état d'urgence, ou en tout cas sa prolongation. Donc ça pose déjà les premières questions. Et puis, deuxièmement derrière, c'est de se dire qu'on vit encore quand même en démocratie et qu'on a le droit de continuer à se poser des questions malgré l'état d'urgence.
On va tenter d'éclairer notre discussion par un regard juridique. Bonjour Fabrice Lorvaux.
Bonjour Bruno.
Vous êtes avocat, spécialiste du droit des médias. Quelles conséquences a ou aura l'état d'urgence sur les médias?
Alors l'état d'urgence, ça met un peu le monde médiatique dans tous ses états, si j'ose dire, parce que on a un double mouvement opposé qui fait pression sur le monde médiatique. D'un côté, il y a une obligation effectivement pour les médias de se restreindre, et de l'autre côté, il y a une obligation d'être plus actif que jamais.
Voilà, c'est ce jeu d'équilibre dont on parlait tout à l'heure, Didier Siamour. En quoi l'état d'urgence peut-il conduire les médias à se restreindre? Sur quoi?
Alors la restriction, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'elle ne résulte pas de la loi sur l'état d'urgence, ou elle ne résulte plus de la loi sur l'état d'urgence, parce que cette loi qui date de 1955, eh bien, avait dans ses dispositions une mesure qui était la suivante, c'est-à-dire qu'en cas lors de l'état d'urgence, le gouvernement pouvait prendre des mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications. Cette mesure, fort heureusement, n'a jamais été utilisée, et lorsque il y a eu cette loi sur la prorogation, on l'a purement et simplement supprimé. Ouais. Voilà.
On verra tout à l'heure qu'il y a quand même eu des discussions là-dessus, mais
le résultat aujourd'hui, c'est qu'elle est supprimée, même si on a rajouté une autre, parce qu'il faut un peu actualiser cette loi, effectivement, sur les sites internet qui font l'apologie du terrorisme, et là, ces sites peuvent être coupés. Donc, cette restriction qui s'impose sur les médias, en fait, elle ne résulte pas de la loi, mais des circonstances de la loi, parce que l'état d'urgence est prononcé, c'est pas une catastrophe naturelle, c'est une circonstance d'une extrême donc gravité qui porte atteinte à l'ordre public, ce sont les attentats. Et il y a une recommandation du CSA qui existe depuis 2013 et qui, quelque part, va, limiter les positions prises par les médias dans le cas de, va restreindre la communication des médias dans le cadre d'attentats, puisque on doit veiller à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public, à l'honnêteté de l'information et à la protection des personnes. Alors ça, c'est le principe, c'est la recommandation 2013 du CSA. Si on peut voir rapidement quelques applications, il y avait eu quelques difficultés lors des attentats de Charlie Hebdo de janvier 2015, puisque le CSA avait relevé 36 manquements, et notamment, pour faire court, c'était la mise en danger des personnes lorsque, c'est le cas de l'hypercachère, l'atteinte à la dignité pour la publication de l'image de ce policier assassiné sans flouter son visage, et aussi mettre en péril l'enquête, puisque le but, effectivement, des médias, c'est d'informer le public, et c'est pas d'être informateur des terroristes. Donc, des difficultés avaient été posées en janvier, mais là, pour les attentats de novembre 2015, donc le CSA n'a relevé avec satisfaction qu'un seul manquement, et c'était un tout petit manquement, c'était l'inadéquation d'une signalétique pour mineurs. Donc, il y a effectivement cette restriction, j'ai envie de dire, qui s'impose aux médias dans le cadre de l'information sur des attentats, et cette restriction a l'air de bien fonctionner, de bien être acceptée par les médias.
Alors vous c'est de la responsabilité. La restriction, il me semble que c'est plutôt de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas de grands irresponsables, etc. On comprend quand soit les gens peuvent être mis en danger dans le feu d'une action. Alors nous, à Mediapart, on n'est pas sur le live en direct, mais je veux dire, on comprend qu'on ne peut pas mettre en danger la vie des gens. Je veux dire, les rédactions se posent ces problèmes au quotidien. En tout cas, j'ose espérer, en tout cas, nous, on le fait à Mediapart. Les rédactions se posent ces problèmes au quotidien et vraiment, je peux vous assurer que depuis les attentats, ces questions-là, on se les a posées tous les jours dans la rédaction.
Oui, bien sûr. Les 36 manquements relevés démontrent bien que si certains y pensent, d'autres n'y pensaient pas.
Voilà. Moi, je pense que c'est un mouvement depuis Charlie. Alors, je n'étais pas actif sur Charlie, mais j'ai quand même suivi ce que faisait le site du Monde.fr, comme tout le monde. Mais moi, je vois quand même une grosse différence, que tous ces événements tragiques, finalement, ont quand même un effet. Nous, sur lemonde.fr, on a un live qui est avec de l'information en continu, avec une règle absolue qui est qu'on ne relaye jamais aucune information de confrère tant qu'on ne l'a pas vérifiée nous-mêmes. C'est une garantie minimale et pas une garantie d'ailleurs absolue, parce qu'on peut aussi avoir des sources qui se trompent derrière, surtout quand ça bouge autant. Mais en tout cas, c'est une règle absolue, ça prend beaucoup de temps. On fait des roulements entre journalistes spécialisés, on s'organise, on est disponible de jour, de nuit, dans des cas d'urgence comme ça, et on passe les coups de fil qu'il faut quand il faut passer les coups
de fil. Ça, c'est une règle journalistique de base, Laurent Bordon.
C'est pas une règle de l'info en continu. C'est pas une règle de base de l'info en continu. C'est bien le problème qui s'était posé pour Charlie.
Voilà.
Moi, je me souviens sur le live de Charlie, que je voyais en tant que lecteur, que souvent les internautes s'impatientaient, parce que les internautes peuvent réagir. Ils s'impatientaient en disant, mais on comprend pas. Tel média a dit tel truc, pourquoi vous confirmez pas, pourquoi vous ne le publiez pas. Donc il y avait un travail de pédagogie énorme fait par les équipes du web. J'ai le sentiment qu'on a été beaucoup moins sollicité par les internautes ce coup-ci. Je pense que les gens ont compris aussi, ils se font à cette culture de l'info en continu, et ils comprennent, les internautes, les téléspectateurs, les lecteurs, que l'info en continu, c'est pas n'importe quoi tout le temps, enfin voilà, et que effectivement il y a un travail de vérification à faire, et que nous on le fait, et ils attendent sagement qu'on vérifie l'information et qu'on la publie.
Fabrice Lorvaux, vous nous disiez tout à l'heure que l'état d'urgence conduit les médias à être encore plus actifs, en quoi ?
Oui, alors moi j'aime bien l'image de la temporalité qui vient d'être évoquée par Laurent, c'est-à-dire que effectivement les médias doivent participer et laisser dans le feu de l'action, mais une fois que le feu de l'action ou de l'enquête est terminé, c'est là où ils doivent deux fois plus, j'ai envie de dire, reprendre leur rôle, et c'est l'hyperactivité à laquelle je faisais allusion et qui concerne à la fois un travail de pédagogie pour expliquer ce que signifie la loi et pour après, effectivement, faire ce travail de surveillance. Alors, l'explication au niveau de la loi, elle est quand même extrêmement nécessaire et importante. On parle d'une loi de 1955, dont la dernière utilisation dans le cadre, ça fera l'objet de la chronique après. Donc, c'est très vieux. Il faut vraiment expliquer ce que ça signifie. Depuis tout à l'heure, on parle de loi d'exception, mais d'exception à quoi, effectivement. Et ça, c'est vraiment le travail de la presse pour déjà expliquer les enjeux, expliquer aussi et surtout canaliser l'émotion, parce que bon, là on commence un peu à reprendre raison, mais il faut se rappeler de l'état de tout le monde d'il y a une semaine, où effectivement il y a eu la sidération, et le danger c'est que la sidération aboutisse un peu à un phénomène d'hypnose collective. Et donc aujourd'hui le vrai débat, c'était de savoir cette loi d'exception, elle nous dit il faut, pour protéger les libertés, qu'on réduise un peu nos libertés. On peut comprendre la démarche, tout est une question de l'endroit où on place le curseur, parce qu'on ne va pas, pour protéger les libertés, finir par tuer la liberté. Et c'est ce débat, effectivement, premièrement, que la presse doit animer pour effectivement poser vraiment les enjeux, et deuxièmement, c'est effectivement, donc on est dans une loi d'exception. Cette loi d'exception, pour résumer, en fait, on retire l'arbitre, on retire le gardien, qui est le juge judiciaire, qui est le gardien de nos libertés individuelles, et qui est le contre-pouvoir des pouvoirs de police et des pouvoirs d'enquête. Et là, dans un souci d'efficacité, alors qui est justifié par les attentats, on retire le gardien. Bon, c'est bien, mais ça peut quand même donner, l'efficacité peut conduire à des abus, et c'est là où effectivement la presse a tout son rôle et de chien de garde de la démocratie, qui est de surveiller, et effectivement que ce pouvoir policier sache qu'elle a un autre contre-pouvoir qui est celui des médias, et qui est en fait l'œil qui va regarder Cain jusque dans sa tombe.
Réaction de Didier Seymour.
Oui. On a l'impression quand même que ce qui s'est passé au mois de janvier en France a servi un peu de jurisprudence, a défini un peu un cadre qui, parce que quand on interroge un certain nombre de médias, ils disent pour la plupart, on a appris des choses, notamment avec les médias qui couvrent, qui font de l'information en continu, que ce soit les sites, les chaînes de télévision notamment, ou les radios, et qui disent, on a appris un certain nombre de choses, on a tiré un certain nombre d'enseignements. Alors, il y en a certains, des enseignements qui leur ont été imposés. Tout à l'heure, on parlait de ce qui avait été mis en avant par le CSA, les manquements, et qui ont entraîné des mises en garde, et pour certains, même des mises en demeure.
21 mises en demeure.
Voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu des manquements qui ont vraiment été signalés. Et ces médias, on a l'impression, au mois de novembre, tout d'un coup, qu'ils ont retenu la leçon, et donc qu'ils sont allés beaucoup moins loin, qu'ils ont voulu faire attention dans tout ce qu'ils faisaient. On va dire qu'ils ont fait un peu profil bas, quoi, qu'ils ont essayé de faire un peu profil bas. Alors, la presse écrite travaille sans doute à un rythme un peu différent, ou la presse en ligne, même si, comme le rappelait tout à l'heure Laurent, il y a des sites en ligne qui couvrent l'actualité, mais on voit bien quand même qu'il y a eu, je pense, un vrai changement de mentalité. Et peut-être que là, c'est la notion de responsabilité qui joue un peu plus, parce que, la grande idée derrière, c'est toujours quelle est la responsabilité des journalistes. Et quand c'est le CSA qui se prononce, le problème, c'est que, officiellement, le CSA n'a pas d'autorité sur les contenus à proprement parler. Et c'est ça le vrai souci aujourd'hui en France, c'est que qui a autorité sur les contenus? Il y a un cadre législatif qui est là pour déterminer s'il y a eu violation de la loi ou pas, mais on voit bien, ouais, dans certains pays, on a ce qu'on appelle un conseil de la presse,
et pas
ça
en
n'existe
France.
Et ça n'existe pas en France.
Oui. Mathieu Ménédicte, non, mais juste avec la limite quand même que, à mon avis, la question principale pour les médias aujourd'hui, comme on a dit au départ, n'est pas la question de savoir si en temps réel, finalement, au moment des attentats, ils ont été pertinents, vérifier leurs informations, etc. La question est quand même, est-ce que va se vérifier dans les médias en général, c'est difficile de parler des médias en général, on le sait bien, mais est-ce que va finalement la traduction de l'unanimisme politique qu'on a autour de cette rhétorique, pas même juste le fait de combattre combattre l'État islamique, etc. Cette rhétorique guerrière qui est quand même installée au niveau du de l'exécutif et ensuite par l'ensemble des députés, qu'ils soient de droite ou de gauche, se répercute avec, je dirais, de façon chimiquement pure par les médias. Si tel est le cas, alors je pense qu'on va quand même au-devant d'autres ratés des médias.
Et c'est ça la question, Laurent Boredon.
Oui, je pense que là, il va falloir s'installer dans la durée et ça va pas forcément être le plus facile, hein, finalement, l'urgence. Nous, en plus, en quotidien, on sait faire. Après, s'installer dans la durée, jouer ce rôle, bon, j'aime pas beaucoup l'expression, mais de chien de garde que j'ai entendu, réussir à avoir aussi la force et l'énergie, je veux dire, parce que de continuer dans la durée, voilà, nous, c'est un peu le but, et je pense que c'était le but également de Mediapart, dans le fait de créer comme ça un espace réservé. C'est que, quelque part, on se met aussi la pression à nous-mêmes, hein, je veux dire, il va falloir continuer pendant ces 3 mois à fournir, alors peut-être au bout d'un moment, un rythme moins régulier, parce qu'on imagine que le rythme des assignations et des perquisitions, à un moment, va se ralentir de fait. Mais il va falloir qu'on continue à jouer ce rôle-là, quoi, parce que autrement on peut se faire avoir à l'usure, hein, tout simplement.
Avec aussi des questions dont parlait Mathieu Magnodex, de la couverture de la guerre en Syrie, de l'intervention française en Syrie. Est-ce qu'il n'y a pas un réflexe que la presse pourrait avoir aussi à certains moments? C'est une vraie question patriotique.
Regardez les couvertures quand même un petit peu de Le Point, 70 pages sur la France combat, c'est quoi la
ouais.
France
bon. Comment la France,
voilà,
combat, ouais,
comment la France combat, etc. On est bon, de fait, on sait très bien que dans ces périodes, enfin là, c'est ce que dit l'histoire, y compris il y a pas avant même la guerre du Golfe, etc. Ce qui s'est passé pendant la guerre de 14, ce qui s'est passé là. Bon, on sait très bien que dans ces périodes-là, les médias ont un rôle crucial parfois pour accompagner des discours très bellicistes. Je dis pas qu'il faut pas combattre l'État islamique, je dis juste que la rhétorique telle qu'elle est installée au niveau du pouvoir n'est pas forcément et ressemble à certains égards à celle qu'a pu utiliser par exemple George Bush après quand même le 11 septembre. C'est à peu près la même rhétorique quand on regarde les mots, etc. Il faut quand même en être conscient.
Il y a un discours politique à questionner, quoi.
Voilà,
Laurent Boredon, je me sens plus sceptique sur cette question.
Je pense que le problème, c'est d'arriver à quitter l'émotion. C'est-à-dire que nous typiquement, on a fait une magnifique une du magazine en bleu, blanc, rouge, de manière subtile, mais voilà, qui est splendide et qui je pense représenter l'émotion qu'on ressentait tous. Mais ensuite, il faut sortir de l'émotion. Je veux dire, notre boulot, c'est pas de réagir à l'émotion toute la journée et de se faire effectivement les turiféraires de la guerre comme ça.
Une petite anecdote.
Didier Thiemo.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce vendredi, donc hier, quand il y a eu cette journée d'hommage aux victimes des attentats, il y avait cette consigne qui avait été donnée par le président de la République, qui disait « Sortez vos drapeaux bleu, blanc, rouge ». Une chaîne de télévision a arboré les couleurs patriotiques, BFM. C'était la seule chaîne qui avait, tout au long de la journée, arboré les couleurs bleu, blanc, rouge sur son écran.
Le secret des sources. Benoît Bouscarel.
Avec Jean-Marie Charon maintenant dans le secret des sources, on va continuer à suivre des perspectives qui vont nous faire remonter, des perspectives historiques qui vont nous faire remonter jusqu'à la Première Guerre mondiale, Jean-Marie.
Mais oui, c'était quand même extrêmement tentant quand on voit qu'on parle de pouvoirs spéciaux, de limitation des libertés publiques, d'entrée en guerre. Et qu'on s'interroge effectivement sur l'attitude des médias, c'était de regarder comment ça s'était passé à d'autres périodes dans les entrées en guerre, et c'est vrai que la plus significative est celle de 14-18. Alors déjà, j'ai trois observations. La première observation, eh bien, c'est la défiance des autorités politiques et militaires en France, plus qu'ailleurs peut-être, à l'égard des médias. Et là, de ce point de vue-là, on est obligé de constater que on n'a pas les mêmes garanties qu'ailleurs, on n'a pas le premier amendement de la Constitution américaine, ou on n'a pas la même société. C'est-à-dire, par exemple, en Grande-Bretagne, il n'a jamais été possible de vraiment installer une censure comme on en a connu en France, parce que l'opinion y était défavorable. Et effectivement, quand je dis défiance, eh bien, ça se marque très vite, puisque si vous prenez donc 1914, dès le 2 août, on a un décret qui met en place l'état de siège et qui suspend les libertés de la presse telles qu'elles sont pensées telles qu'elles sont écrites dans la loi 1881. On n'est pas encore en guerre. On est à la veille de l'entrée en guerre, puisque ce sera le 3.
Le lendemain.
Le lendemain. Et le 5, quand on parlait d'une chronologie extrêmement rapide, le 5, le Parlement vote, je dirais de très 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 massivement, cette entrée dans l'état de siège. Et le 5 aussi se décident les dispositions, la codification de la censure. Et là encore, si on compare avec la situation britannique, eh bien on s'aperçoit que, bien sûr, il y a eu des pressions à l'égard du pouvoir politique pour qu'on installe une censure, mais c'est au niveau du Parlement qu'il y a eu à chaque fois de fortes réticences à l'égard de la mise en place de la censure. Il n'y a pas simplement l'entrée en guerre, il y a aussi les conditions dans lesquelles les journalistes peuvent travailler. Il faut se souvenir qu'il faudra attendre 1917 pour que les journalistes puissent aller sur le front lui-même et aillent dans les tranchées.
Entre 14 et 17, c'était interdit.
C'est-à-dire, on pouvait aller à l'arrière, on pouvait voir, entre guillemets, de l'arrière, on pouvait interroger des personnes qui avaient été combattantes, mais on ne pouvait pas aller dans les tranchées. Alors, 1939, ça fera exactement la même chronologie, hein, mais ça fait écho pour moi avec ce qui s'est passé effectivement le 18 novembre dernier, où face au gouvernement qui propose d'enlever les dispositions sur les médias dans les dispositions de l'état d'urgence, eh bien il y a quand même 12 députés de la majorité, 6 députés de l'opposition qui au contraire proposent qu'on maintienne des dispositions ou qu'on actualise des dispositions qui limiteraient l'action ou disons la liberté d'action de la presse. La deuxième observation, je crois qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est aussi la différence d'attitude et notamment l'attitude extrêmement compréhensive des médias français à l'égard de ces dispositifs. Alors, en 1914 et en 1939.
Oui, les choses ont changé depuis.
Les choses ont bien dû changer. Et de ce point de vue-là, on voit le contraste entre, je dirais, la conception anglo-saxonne, la notion de quatrième pouvoir, l'attachement peut-être aussi à une information plus factuelle. On se souvient des démêlés entre les médias anglo-saxons et leur pouvoir politique pendant la guerre du Vietnam, pendant la guerre des Malouines. Et Jean-Claude Sergent, par exemple, dans un article qui est spécialiste, qui était spécialiste de la presse anglo-saxonne, dans un article de Média Pouvoir, décrivait par exemple le bras de fer qu'il y a eu pendant très nombreux mois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre le Daily Mirror et le gouvernement de Winston Churchill, justement sur ces questions de respect ou non des consignes publiques. Eh bien, en France, on n'en était pas là du tout, puisque là encore, si on reprend le début de la guerre de 14, eh bien, le 5 août, donc on est de nouveau dans les mêmes dates, eh bien, une assemblée de la presse parisienne déclare son acceptation du contrôle de la presse. Et qui rend compte de l'avancement de la guerre, eh bien, dans les grands quotidiens, et notamment dans le Petit Parisien, qui était la plus grosse diffusion de l'époque, eh bien, ce sont des officiers d'état-major, qui sont désignés d'ailleurs par l'état-major, pour parler... alors bon, ça peut nous rappeler ce qu'on avait vu à l'antenne pendant la guerre du Golfe, peut-être, hein, c'était pas l'état-major qui envoyait les officiers, mais on en avait beaucoup à l'antenne aussi à l'époque. Il faudra attendre 1915, d'ailleurs un an plus tard, pour que vraiment la question de la censure devienne un sujet de débat au sein de la presse, donc création du Canard enchaîné par exemple, création par Clémenceau de L'Homme enchaîné, parce que précisément son titre précédent, L'Homme libre, venait d'être interdit pour non-respect d'un certain nombre de dispositions des textes. La troisième observation, mais on l'a tous en tête, hein, eh bien évidemment c'est le contre-pied dans lequel la presse peut se retrouver. Le 29 août 1914, vous vous en souvenez certainement tous, eh bien, il y a un communiqué de migrants qui est publié par la presse et qui dit que les troupes allemandes ont été stabilisées sur la Somme et les Vosges, et dans les Vosges. Mais la presse avait oublié d'indiquer que les troupes allemandes avaient franchi la frontière.
La presse française avait omis l'information.
Oui. Donc on voit bien ce type de contre-pied auquel on peut arriver. Alors moi, pour moi, ça fait écho un peu avec ce qu'on vient de voir à propos de l'efficacité des renseignements. C'est vrai que d'un seul coup, on voit apparaître toute une série de papiers sur les questions autour des renseignements, mais on nous a tellement parlé de l'efficacité des renseignements français qui protégeaient la France qu'il me semble qu'on ne peut pas oublier ce fait. Et puis, l'autre sanction, me semble-t-il, qu'il faut toujours avoir en ligne de mire pour nous, eh bien, c'est la crise de confiance. La fin de la guerre de 14, c'est la crise de confiance et c'est le thème du bourrage de crâne qui, au-delà d'être un dommage pour la presse, est un dommage pour la démocratie, me semble-t-il.
Les choses ont évolué, Jean-Marie Charon, depuis.
Alors, c'est vrai qu'on n'est plus du tout dans le même système médiatique. Il y a une diversité des médias qui est extrêmement...
Il y a les réseaux sociaux, il y a Internet.
Voilà, il y a surtout Internet. Je crois que derrière les médias traditionnels et peut-être derrière la tentation de certains de repartir un petit peu dans des logiques qui seraient un peu comparables, d'être beaucoup trop compréhensifs ou de verser trop dans l'auto-censure, il me semble que l'Internet a deux grandes vertus. La première, c'est de ne pas être national. C'est que si nous sommes trop timorés, d'autres le seront moins ailleurs. Et on a vu dans un certain nombre, on l'a vu pour la Belgique ces derniers jours, où un certain nombre, le public belge a pu accéder à d'autres informations que celles de ces médias nationaux. Il y a quelques semaines ici, à cette antenne, on a parlé de la Turquie. Et au moment des attentats en Turquie, ça a été aussi un phénomène, ce rôle de l'Internet et des médias auxquels on pouvait accéder grâce à ce réseau. Et puis effectivement, il y a les réseaux sociaux. Et là, il y a, me semble-t-il, un nouveau rôle qui apparaît et qui me paraît très intéressant. C'est le fait que face à un flux de données, d'impressions, de témoignages ou de documents, mais pas tous validés, il y a un nouveau rôle qui s'installe pour la presse, c'est celui effectivement d'être plus que jamais le lieu de la vérification, le lieu de la mise en perspective, le lieu de l'analyse et de la validation. Et là, il me semble, on en a parlé tout à l'heure, que le travail par exemple que fait Le Monde avec son live et en même temps cette manière de dire il y a le live mais aussi il y a les informations véritablement dont on est véritablement sûr, je pense que ça fait partie de ce rôle attendu des médias. Et l'annonce de la création d'observatoires de l'état d'urgence me paraît être la meilleure réponse contemporaine par rapport à l'histoire que nous avons connue.
Laurent Boredon, une réaction à ce que vient de dire Jean-Marie Charon ?
C'est gentil, merci.
Il faut tenir la promesse.
C'est... Non, tout à fait. Après, sur les réseaux sociaux, simplement, il rajoute encore un peu de pression, c'est le mot, sur nous, parce qu'effectivement, tout sort tout de suite, un peu tout le temps, n'importe comment, donc c'est un peu compliqué aussi parfois à gérer. Mais c'est aussi un vecteur d'information très intéressant, et puis ça permet de ne rien laisser de côté, et je le vois notamment sur les questions de perquisition et d'assignation à résidence, où on voit certaines choses émerger sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, et ça nous permet d'être informés alors qu'on peut de fait pas être partout non plus.
Alors on a beaucoup parlé de censure dans les dernières minutes, vous l'avez rappelé Jean-Marie Charon, vous aussi Fabrice Lorvaux tout à l'heure, le Parlement a supprimé les dispositions de la loi de 1955 sur le contrôle des médias, mais quand même, on n'est peut-être pas passé loin, écoutez.
Je constate que depuis les attentats de janvier, l'esprit de responsabilité a progressé dans les médias audiovisuels. Mais que, malgré tout, la pulsion de l'information, la pulsion du direct, involontairement, peut amener des médias, ou pas du tout des médias, à diffuser en direct sur les réseaux sociaux des informations qui peuvent mettre en danger nos concitoyens, qui peuvent mettre en danger les forces de l'ordre. Je l'ai constaté à l'hypercachère. Nous l'avons reconstaté ce week-end. Jusqu'au mouvement de panique de dimanche, 19h à peu près, dans tout Paris. La rumeur fait partie aussi de ce qui peut mettre en danger nos concitoyens. Et je regrette, franchement, qu'on se prive de cette possibilité, par ailleurs, n'étant en aucun cas une obligation. C'est pourquoi j'avoue une forme d'incompréhension du fait qu'on ait supprimé dans ce projet de loi des dispositions qui ne seraient, dans notre démocratie, jamais utilisées qu'avec, évidemment, naturellement, une infinie parcimonie et précaution.
Évidemment. C'était le mercredi 18 novembre à l'Assemblée nationale. Mathieu Magnodex, vous étiez à ce moment-là, vous avez assisté à cette séance de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. C'est Sandrine Mazetier qu'on vient d'entendre, députée socialiste, qui dit c'est dommage.
Vice-présidente de l'Assemblée nationale.
Et vice-présidente de l'Assemblée nationale, c'est exact, qui dit c'est dommage de se priver quand même dans la loi d'une disposition qui permettrait de contrôler les médias. Vous avez écrit un texte à l'issue de cette séance intitulé Les censeurs.
Oui, Sandrine Mazetier, elle n'était pas toute seule. Ils étaient non pas 12, dans la dernière version de l'amendement, j'ai regardé 21. Donc c'est quand même un peu un peu moins de 10% du groupe socialiste, un
tous
peu moins,
gauche,
voilà, tous, quand même, c'est le groupe socialiste. Les Républicains n'allaient pas aussi loin dans leur proposition, c'est quand même la réalité. Et ce qui s'est passé, c'était une séance absolument hallucinante, où, alors qu'on était en train de discuter de l'état d'urgence, pendant 45 minutes, on a parlé du rôle de la presse, et... En fait, ce qui était très étonnant, c'est que ces députés socialistes donc parlaient d'un amendement qui rétablirait dans la loi sur l'état d'urgence le contrôle possible des émissions radiophoniques, donc comme ici, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales, hein, et donc aussi de la presse. Donc ce n'est pas uniquement la presse dont on parle. Mmh. Et alors à chaque fois, ça visait des cas particuliers. C'est-à-dire qu'en fait, Sandrine Mazetier parlait du contrôle de la presse, mais en fait parlait de BFM TV. Donc elle aurait voulu qu'on trouve une façon de réguler BFM TV. Les autres, les signataires aussi, parlaient des représentations de théâtre, mais bien sûr, ils disaient « Mais c'est pas André Dussolier qu'on va interdire, c'est bien sûr Dieudonné, parce qu'on n'a pas trouvé la façon pour embêter et empêcher les représentations de données, donc on va le faire comme ça. » Et ce qui était fascinant, c'était que, d'ailleurs, moi je me suis écharpé après avec des députés socialistes que je connais bien, donc du coup je les vois tous les jours, et c'est vrai que je comprenais pas l'espèce de fureur qui les saisissait à cet instant-là, c'était très étrange, des gens qui étaient plutôt assez calmes, d'habitude assez, qui avaient parfois, qui peuvent avoir des arguments un peu raisonnables, là, me semblaient échapper à toute rationalité, et qui me disaient « Mais c'est grotesque, comment vous pouvez imaginer qu'on aurait pu rétablir la censure ?» Techniquement, c'est ce qu'il voulait faire et rendre à nouveau cette possibilité dans une loi sur l'état d'urgence.
Jean-Marie Charon, tout est toujours très fragile en termes de liberté d'expression, de liberté de la presse.
Ben, surtout lorsque, je crois que le pire, c'est quand on légifère à chaud. Et là, c'est vraiment la prise de risque qu'a été assumée visiblement par le pouvoir, c'était de prendre des dispositions aussi lourdes alors qu'on était aussi près de l'événement, quoi. Et on a beaucoup critiqué les Américains, enfin l'Amérique du Nord de ce point de vue-là, les États-Unis de ce point de vue-là, et en fait on a répété exactement le même phénomène.
Le secret des sources continue, restez avec nous, on va maintenant partir en Tunisie.
Je proclame l'état d'urgence pour 30 jours, selon les termes définis par la loi, et un couvre-feu dans le Grand Tunis, à partir de 21h jusqu'à demain. 5h du matin.
Le président tunisien Béji Caïd Essebsi, mardi soir, annonçant l'état d'urgence après l'attentat qui a fait au moins 12 morts contre un bus de la sécurité présidentielle à Tunis. Bonjour Rachid Chérif.
Bonsoir.
Bonsoir, merci d'être avec nous, journaliste au Courrier de l'Atlas. Vous vivez aujourd'hui en Tunisie, comme en France, sous le régime de l'état d'urgence. Quels sont les conséquences sur la presse tunisienne, elles sont différentes parce que en Tunisie, il a été décidé d'instaurer le contrôle des médias dans cette période d'état d'urgence qui court sur un certain nombre de jours.
Absolument. Alors l'état d'urgence permet selon la loi donc de contrôler les médias comme en France, mais c'est un travail qui est en Tunisie un peu plus simple entre guillemets, je m'explique, c'est-à-dire qu'on sort de deux décennies de dictature avec un contrôle très strict des médias et plus largement de 60 années d'un régime plutôt autoritaire. Et de fait, les médias ont pris l'habitude de se fier alors principalement à des sources officielles, donc des communiqués et des conférences de presse. Alors il faut dire qu'après la révolution tout de même, il y a une liberté d'expression, une liberté de ton dont les médias profitent à plein, notamment les médias électroniques. Et ces médias, en fait, profitent de cette liberté retrouvée, ou plutôt nouvellement acquise, et ne savent pas trop quoi en faire. Donc ce qu'on retrouve parfois sur certains sites, c'est, voulant aller plus vite que la musique par exemple, c'est la reprise de rumeurs. La rumeur devient alors information et relayée par d'autres sites, dont des journalistes en fait passent leur journée derrière des écrans à taper des brèves, et utilisent les réseaux sociaux par exemple comme outil d'information, comme source parfois, récupère des images, récupère des déclarations, des témoignages qui ne sont pas souvent recoupés sur le terrain. Et c'est ainsi que ce qui peut être une rumeur devient une information. Et les informations, elles, il faut les trouver dans ce brouhaha de ce mélange d'intox et d'informations.
Merci Rachid Chérif. Et la ligne est malheureusement très dégradée vers la Tunisie. On va être obligé de mettre un terme prématuré à cet entretien et c'est bien dommage parce que ce que vous nous racontiez est très intéressant. Merci à vous Rachid Chérif, journaliste, je le rappelle, au Courrier de l'Atlas. Merci à tous d'être venus autour de cette table ce matin dans le secret des sources. Merci à Mathieu Magnodex, journaliste politique à Mediapart, Didier Siamour, journaliste indépendant, spécialisé dans les médias, Fabrice Lorvaux, avocat. Le regard extérieur était aujourd'hui celui de Jean-Marie Charon, sociologue des médias. Merci enfin à Laurent Boredon, journaliste au Monde et animateur de l'Observatoire de l'état d'urgence. Je rappelle d'ailleurs l'adresse, je donne l'adresse à laquelle vous invitez vos lecteurs à vous transmettre toute information utile sur les conséquences de l'état d'urgence. Vous me dites si je me trompe, état d'urgence le Monde, tout attaché, @gmail.com, adresse qui est indiquée en toutes lettres sur la page du secret des sources sur franceculture.fr. Avant de nous quitter, je vous propose de retrouver comme chaque semaine le clin d'œil de Yacine Bouzard.
Nick Alexander.
Jean-Jacques Amiot.
Armel Antisevic Pumir.
Anne-Laure Arruebo.
Thomas Ayad.
Guillaume Barreau de Scherf.
Alva Berglund.
René Bichon.
Chloé Boissineau.
Emmanuel Bonnet.
Maxime Bouffard.
Quentin Boulanger.
Makateo Boumbas.
Élodie Breuil.
Cyprian Calchiou. Et Lacrimioara Pop.
Claire Camax.
Nicolas Catina.
Baptiste Chevreau.
Nicolas Classot.
Manuel Colacodias.
Anne Cornet, épouse Guillaume. Et Pierre-Yves Guillaume.
Priscilla Correa.
Cécile Coudon-Pécado de Lille.
Marie-Aimée Dalloz.
Véronique de Bourgie.
Aurélie de Peretti.
Mathieu de Rorté.
C'était le clin d'œil de Yacine Bouzard. Ainsi se referme le secret des sources. Prochaine exploration des coulisses de l'information samedi prochain sur France Culture. Ce sera avec Frédéric Barrère. D'ici là, on attend vos remarques et commentaires sur franceculture.fr. Un grand merci à toute l'équipe du secret des sources. Mathias Mégy à la préparation, Vincent Abouchard à la réalisation et Emmanuel Morse-Duncan à la technique. Aujourd'hui, dans un instant sur France Culture, réplique d'Alain Finkielkraut. Ce sera juste après le journal de Mathieu Laurent. Très belle journée.
Il y a une forme d'autocensure qui s'est établie chez certains médias qui ne vont pas aller enquêter justement et qui vont aller s'abreuver, on va dire, auprès du ministère de l'Intérieur pour voir ce qu'ils ont le droit de raconter, ce qu'ils ne raconteront pas.
Avec un danger supplémentaire sous état d'urgence, évidemment.
Bien sûr.
La vraie question, c'est la question de dans quel état sommes-nous ? Est-ce que c'est quand même important qu'après la phase de l'émotion, en fait, que tout le monde a couvert quand même et a décrit, que maintenant aussi on se pose les questions qui sont normales de savoir un petit peu comment la police agit dans ce cadre, qui est encore une fois un cadre d'exception.
Ensuite, il faut sortir de l'émotion. Je veux dire, notre boulot, c'est pas de réagir à l'émotion toute la journée et de se faire effectivement les thuriféraires de la guerre comme ça.